Nous voulons poursuivre notre regard sur l'Église. Nous avons vu approcher ce beau projet de Dieu, un projet d'amour, l'Église. Christ l'aime comme son épouse. Il a donné sa vie pour elle et Christ a écrit une lettre à l'Église. Lorsque j'étais fiancé ou un peu avant les fiançailles avec ma femme, on s'écrivait une lettre tous les jours. Ça a duré pas mal de temps, ça faisait que parfois je n'allais pas en cours, j'avoue. Mais voilà, il y avait moyen de rattraper ses cours. C'est beau de recevoir une lettre. C'est beau de recevoir une lettre d'une personne aimée. Et Christ a écrit une lettre, ou plutôt sept lettres. Sept lettres écrites à cette église. Sept lettres dictées à l'apôtre Jean par Jésus-Christ lui-même et que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3. Sept lettres écrites pour cette église, différentes dans leurs caractéristiques, dans leur situation, dans leur époque. Certains y voient même l'histoire de l'église. Cette église de l'Asie mineure, donc on va prendre la diapo suivante et on restera avec cette diapo parce que vous verrez, en fait, je ferai une lecture d'extrait de chacune de ces lettres, mais regroupées par thème. Et pour que vous y retrouviez un peu au bout d'un moment, vous souvenir, voilà. Voilà, c'est cette église, Éphèse, ou l'église qui a perdu son premier amour. Alors, c'est toujours un peu réducteur, les titres, mais ça permet. Vous verrez que le regard de Jésus-Christ est beaucoup plus nuancé. Smyrne, ou l'église dans l'épreuve. Pergame, ou l'église menacée. Thyatire, ou l'église activiste. Sardes, ou l'église réputée vivante. Philadelphie, ou l'église fidèle. Laodicée, ou l'église tiède. Et voilà, on restera avec cette diapositive. Et lorsque je vous lirai des extraits de lettres, eh bien vous pourrez vous reporter à cette diapo si vous vous y perdez un peu. Ce n'est pas une lettre circulaire. Vous savez, une lettre circulaire qui est adressée à toutes les églises de façon indéterminée. C'est une lettre pour chacune. Chacune de ces sept églises individualisées, personnelles, propres à chacune. C'est une lettre un peu diagnostique. Une lettre où le Christ dit « Voilà comment je te vois. » Et ce qui veut dire pour le Christ « Voilà comment tu es. Voilà ce que tu es. » Parce que Christ nous voit tel que nous sommes. C'est une lettre écrite à une église, et donc nous devons l'entendre d'abord en tant qu'église, mais ce sont aussi des paroles, vous verrez, qui nous touchent aussi en tant qu'individus, et l'église est composée d'individus qui ont répondu individuellement à l'appel du Christ pour le suivre. Donc je crois que nous pouvons aussi entendre ces paroles de façon individuelle. Et si vous lisez ces sept lettres, vous vous apercevrez qu'après le temps de présentation, et nous avions pendant l'été mis le focus sur l'auteur de la lettre, Jésus-Christ, qui se présente de différentes façons, il commence sa lettre par « Je te connais ». À Éphèse, « Je connais ta conduite ». À Smyrne, « Je connais ta détresse et ta pauvreté ». À Pergame, je sais que là où tu habites, Satan a un trône. À Thyatire, je connais tes œuvres. À Sardes, je connais ta conduite. À Philadelphie, je connais ta conduite. À Laodicée, je connais ta conduite. Je connais ta vie. Je te connais. Et toi, Église d'Angoulême, je te connais. Je connais ta conduite. Je sais là où tu habites. Je connais ton environnement. Je connais tes détresses. Je connais ta pauvreté. Je connais tes œuvres. Je connais ta vie. Je te connais. Mais c'est différent de, vous savez, ce « je te connais », a priori, je t'ai mis dans une case. Il sera difficile d'en sortir. Non, lorsque Jésus-Christ dit « je te connais », c'est vraiment une connaissance juste, honnête, intime, qui voit ce que d'autres ne voient pas, qui voit ce que personne d'autre ne voit. Dans « Je te connais » et dans la suite des lettres, nous verrons que « Je te connais », c'est aussi « Je connais tes bons côtés, et je connais aussi tes mauvais côtés, les bonnes choses et les moins bonnes. Je te connais, je connais les bons côtés, et je te le dis, je te dis ce qui va. À l'église d'Éphèse, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as prouvé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Dans une autre version, je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite, tes travaux, ta peine, ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues, ni la patience dont tu fais preuve. À l'église de Smyrne, je connais ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. À l'église de Pergame, je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Un environnement défavorable, hostile, menaçant. Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi. À l'église de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Nos œuvres, plus nombreuses que les premières. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. À l'église de Philadelphie, l'église fidèle, je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as mis en pratique ma parole et tu ne m'as pas renié. Tu as gardé le commandement que je t'ai donné de persévérer. Et dans une autre version, tu as gardé ma parole, tu as pris à cœur mon appel et tu m'as attendu avec patience. Avec persévérance. Voilà ce que le Christ dit à cette église à qui il dit un peu avant, tu n'as que peu de puissance, tu n'as que peu de force. Notons que à deux églises, Jésus ne dit pas les bonnes choses qu'il voit. Mais à part ces deux églises, Sardes et Laodicée, Jésus a de bonnes choses à dire. Et il les dit en premier. Nous pourrions qualifier cela comme de la démagogie ou tout au plus de la diplomatie. Je crois que de la part du Christ, c'est de la bienveillance. Et je crois que nous avons besoin, nous aussi, dans nos relations, dans l'Église, dans nos familles, auprès de nos enfants, de nos conjoints, nous avons besoin d'abord de voir les bonnes choses et de leur dire. Je te connais, je connais tes bons côtés, les bonnes choses et je te dis ce qui va. Je te connais, je connais aussi les moins bonnes choses. Et je te dis ce qui ne va pas. À l'église d'Éphèse, alors qu'il lui avait dit « Je connais ta persévérance, ton amour de la vérité, ta souffrance à cause de moi, sans te lasser », il a un reproche à lui faire. « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Et dans une autre version, « J'ai cependant un grief contre toi. » Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. À l'église de Thyatire, pourtant j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs. en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes de sacrifice. Cette église à qui il avait dit auparavant « Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » À l'église de Pergame, j'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes des sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. À cette église à qui il avait dit « Tu me restes fermement attaché, pourtant, là où tu habites, Satan a son trône », Jésus a un reproche à lui faire, de laisser des gens attachés à une fausse doctrine. Il est frappant de voir ici que, pour plusieurs églises, c'est la question de la vérité qui est posée par le Christ. La question des faux docteurs, des fausses doctrines d'une secte qui s'appelait les Nicolaïtes à l'époque. Et je pense à ce travail des premières églises qui ont justement beaucoup œuvré pour élaborer le credo chrétien auquel nous nous référons aujourd'hui. Alors certes, nous avons comme devise, et je suis beaucoup attaché à la devise des églises libres, dans les choses essentielles, fidélité, dans les choses secondaires, liberté, et en toutes choses, charité. C'est la devise des églises libres à laquelle nous sommes attachés. Mais je voudrais aussi prendre un commentaire de Karl Barth, justement sur ce travail des premières églises. Karl Barth parle de l'énorme labeur des anciens conciles et de leurs théologiens. Voilà ce qu'il écrit. Il y a une certaine grossièreté à vouloir les juger au nom de notre prétendue spiritualité, qui recouvre tant d'incompétence, et à leur reprocher d'être allés trop loin, au lieu d'être reconnaissant qu'il n'est pas craint d'aller à ce point au fond des choses. Nous voulons être reconnaissants pour ces premiers chrétiens, ces premières églises qui ont pris le temps d'élaborer, de comprendre et de rédiger ce credo auquel nous nous référons. Nous poursuivons ce « je connais ce qui ne va pas » et « je te dis ce qui ne va pas » à l'église de Sardes. « Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. On peut leurrer les autres, on ne peut pas tromper Dieu. » Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Une église sans l'esprit, coupée de la source de vie de Christ lui-même, de la communion de celui qui est la vie? Cela nous rappelle que l'Église est un lieu de vie, mais pas seulement. C'est un lieu où la vie doit se manifester, mais une vie nouvelle. L'Église doit être unie à celui qui est la vie. Et cette vie éternelle que Dieu nous offre, c'est une vie de relation, c'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. À l'Église de Laodicée, « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Dans une autre version, « Je connais ta vie, tu n'es ni froid ni bouillant, comme je voudrais que tu sois l'un ou l'autre. » Je ne sais pas comment vous réagissez à ces paroles. Personnellement, déjà être tiède, je trouve que ce n'est pas si mal. Tu prétends « Je suis riche, j'ai fait des affaires, j'ai amassé des trésors, je suis arrivé, j'ai tout ce qu'il me faut. » Mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable et pitoyable. Si quelqu'un est pauvre, aveugle et nu, c'est bien toi. L'église de Laodicée. Une église matérialiste. Une église qui n'a besoin de rien. Une église toute suffisante. Une église qui n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Une église qui a oublié justement que tout est grâce, que tout est donné, que tout est cadeau de Dieu. « Il était intéressant aussi de noter que Sardes, qui se était réputée vivante, mais qui était morte, avait réussi à tromper le regard des autres. Cette fois, c'est Laodicée qui se trompe sur elle-même, qui prétend et qui ne se rend pas compte à quel point elle est pauvre, misérable et nue. Alors, je te dis ce qui va et je te dis ce qui ne va pas. Voilà le regard du Christ sur ces sept églises. Ce n'est ni un regard idyllique, ni un regard uniquement négatif. C'est un regard exigeant, avec un diagnostic juste, terrible peut-être pour certaines églises. Mais ce qui me touche dans ces lettres, c'est que Jésus ne s'arrête pas au diagnostic. Il pourrait très bien dire, voilà, je t'ai mis dans la case, il y avait des bonnes choses, il y avait des moins bonnes choses. Le diagnostic du Christ est juste, mais il ne se limite pas au constat. Il ne se contente pas de ce constat. Et nous retrouvons là encore son exigence. Il ne se satisfait pas de la situation, il ne veut pas de ce statu quo. Alors, en bon médecin, il prescrit le traitement. Et donc, à plusieurs églises, il va leur dire, réagis, change. À l'église d'Éphèse, qui a perdu son premier amour, allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change d'attitude et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas d'attitude. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes ce que font les Nicolaïtes, comme je les déteste aussi. On retrouve ce regard plein de nuances et en même temps cette exigence. Si tu ne changes pas d'attitude, j'ôterai le chandelier, l'église d'Éphèse n'existera plus. À l'église de Pergame, change donc d'attitude. Sinon, je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. À l'église de Thyatire, il parle de la femme Jézabel, cette, là encore une question de fausse doctrine dans l'église de Thyatire. Et Christ dit à propos de Jézabel, je lui ai laissé du temps pour qu'elle change d'attitude, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. À l'église de Sardes, vous savez, l'église réputée vivante, deviens vigilant, raffermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Mets-la en pratique et change d'attitude. Dans une autre version, prends garde, réveille-toi, ranime et raffermis ce qui te reste et qui est aussi sur le point de mourir. J'ai trouvé qu'aucune de tes œuvres ne satisfait aux exigences de mon Dieu. Rien de ce que tu as fait n'est parfait à ses yeux. Rien ne pourra subsister devant lui. Rappelle-toi quel accueil empressé tu as fait à la prédication de la parole. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu pour l'observer et y conformer ta vie. Repens-toi. Pour se réveiller, se ranimer, raffermir le reste qui est prêt à mourir, pour être à nouveau vivante. Le remède, c'est le retour à la parole de Dieu. L'accueillir, l'observer, pour y conformer sa vie. Et à l'église de Laodicée, vous savez, cette église tiède, qui n'a besoin de rien, c'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité. Et un collyre pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change d'attitude. Écoutons ses conseils. Lorsqu'il nous reprend, lorsqu'il nous corrige, c'est qu'il nous aime. L'atmosphère est peut-être un peu lourde d'avoir écouté ces paroles, et en même temps, je trouve qu'il y a énormément d'encouragement dans ces paroles. Il y a une bonne nouvelle. Une église qui a perdu son premier amour peut le retrouver. Une église qui passe pour être vivante et qui est morte peut raffermir ce qui était près de mourir et être à nouveau vivante, revenir à la vie. Une église qui est tiède à en vomir peut être à nouveau bouillante. Et puis le Christ donne des paroles d'encouragement pour ceux qui en ont besoin, et particulièrement les églises qui sont dans l'épreuve. À l'église de Smyrne, n'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de la victoire. À l'église de Thyatire, Jésus a discerné que quelques-uns ne s'étaient pas égarés. Alors il dit, quant aux autres membres de l'église, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître les profondeurs de Satan, je vous le déclare. Je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. À l'église de Sardes, réputée vivante, Jésus avait vu qu'il y avait quelques-uns aussi qui étaient différents. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. À l'église fidèle de Philadelphie, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé à l'église de Philadelphie toujours, tu as gardé le commandement que je t'ai donné de persévérer. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai. À l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Et à l'église de Laodicée, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Dans une autre version, me voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. En conclusion, nous avons écouté ce que Jésus-Christ a écrit à ses églises, à chacune de ces 7 églises. Et en écoutant ces paroles, certaines nous ont sans doute touchés, troublés, encouragés, remis en cause, en tant qu'Église et en tant qu'individu. Nous avons entendu des paroles justes, des paroles honnêtes, des paroles positives, des paroles sévères, des paroles qui corrigent, de la part de celui qui est le témoin véritable, le témoin fidèle. Nous avons entendu des paroles exigeantes, mais des paroles d'amour, des paroles d'un amour exigeant. Cet amour exigeant de Dieu qui ne se contente pas des demi-mesures, qui ne supporte pas les demi-vérités, les demi-teintes, les faux-semblants, la tiédeur, l'amour devenu routinier. Un amour qui ne se satisfait pas du statu quo et qui croit au changement, qui espère. Un amour exigeant qui veut le meilleur pour son Église. Voilà le projet de Dieu, l'Église et la relation d'intimité qu'il souhaite avec elle, qu'il demande ce dîner en tête à tête avec lui. C'est un projet d'excellence qui peut nous paraître hors de portée et peut-être même nous effrayer. Comment répondre à cette exigence d'amour? Mais souvenons-nous que c'est Christ qui bâtit son Église. C'est son œuvre. Souvenons-nous que Christ prend soin de son Église et il prend soin de son troupeau d'Angoulême. Souvenons-nous qu'il a tout accompli sur la croix pour rendre son Église digne de Dieu pour rendre son Église si belle. Alors, répondons avec confiance, avec foi, à son appel. Amen.